Vous écoutez
RMC.
RMC, 20h minuit.
L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
23h27, les programmes sur la Daniel Riolo également. Évidemment, il y a la Ligue 1 qui reprend dès demain, mais aussi les championnats européens. Fred, t'as quoi ce week-end au programme ?
Ah, j'ai un très bon Atlético Villarreal, si je dis pas de bêtises. C'est samedi. Il y a des matchs intéressants. Donc attends, je vais te dire, c'est le.
Bon, vu que t'as perdu ouais. Ta feuille, on va.
Atlético Villarreal, c'est ça. Ça dit. Je regardais l'heure. C'est dimanche. C'est pas samedi. C'est dimanche.
D'accord.
C'est la fin de
le journée. Du week-end.
Et puis après, et à la Real Sociedad Barça, qui va couturer le journée de dimanche à 22h. Parce qu'en Espagne, comme il fait encore chaud, on joue beaucoup de matchs à 22h. Donc les grosses affiches, le Real Celta Vigo Real, c'est samedi à 22h, et Real Sociedad Barça, où le Barça a souvent l'habitude de perdre des points, c'est à 22h aussi quoi.
Pas mal ça, ça te permet d'enchaîner.
Ça éviterait de faire comme chez nous, les cooling break à 25 degrés. Nous, ici, quand il fait 25,
il y a faut pas qu'ils aillent jouer à Séville, les mecs.
Un match à 22h en France,
Séville, c'est 45 degrés.
En France, il sera jamais. Il fait chaud, hein. Il fait chaud tout le temps en France maintenant. Tout le temps.
Ah ouais, mais c'est...
Tout le temps, il fait chaud.
Non, après, là, c'est une question.
Donc, dimanche, on peut se faire Lille, PSG et après le Barça.
Bah ouais. Non, mais franchement, 22h en Espagne, l'été, c'est 20h chez nous. Enfin, tu vois, c'est... Enfin, les gens sortent de la plage, ils vont bouffer et puis ils regardent le match après tranquillement. Très bien. Moi, je dois reconnaître que j'aime plutôt ces matchs très tard. Quoi.
Moi aussi, j'aime bien.
Ouais, c'est plutôt sympathique. Et pour les stades.
Pas trop un horaire pour Polo, enfin pour la Bundesliga, parce que là.
Oui, non, ça c'est.
Surtout en hiver.
Surtout en hiver, exact. Bon, alors, c'est quoi tes affiches du week-end, toi, Polo ?
Bah écoute, j'ai pas d'affiche au sens où les médias aiment parler. Moi, ce sont surtout des rencontres qui sont où les deux équipes sont très proches les unes des autres. C'est une raison bien simple, c'est que l'année dernière, rappelez-vous, il y a deux clubs, Schalke et le Werder, qui sont descendus.
Et oui.
C'est quelque chose d'anormal. Or, ces deux clubs sont remontés et, comme on dit en Allemagne, ce sont deux clubs qui ne sont pas des promus normaux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le niveau Bundesliga. Et quand tu vois les deux premières journées, excepté la rencontre Mayence-Union Berlin, qui a été un match lamentable dans le jeu. Ça ressemblait beaucoup à Allemagne-Autriche 1982, si vous voyez ce que je veux dire. C'était ce qu'on appelle un kackospiel, un match de M, qui a été dramatique. Le niveau des équipes a été plus que performant. Et je te rappelle qu'à l'année dernière, quand on avait fait les chapeaux, Gilbert, tu nous avais demandé quelle équipe vous avez plu cette saison dans le jeu, etc. Et moi, j'avais dit que j'en avais pas l'année dernière. J'étais pas content du niveau moyen de la Bundesliga. Et ben, je peux t'assurer que sur les deux premières journées, je suis super content de ce qui s'est passé. Le week-end dernier, le samedi, les matchs étaient extraordinaires entre eux, y compris Schalke et le Werder, qui égalisaient dans les arrêts de jeu pour aller chercher un point à domicile ou à l'extérieur, etc. Et donc, cette année, moi, ce week-end, moi, c'est entre Mönchengladbach et le Hertha, Dortmund qui doit jouer le Werder, Leverkusen qui doit jouer Offenheim, Leverkusen qui est dernier du classement pour l'instant, qui a raté son début de championnat, ou d'autres, comme le derby entre Stuttgart et Fribourg, qui peut placer les deux équipes dans une première partie de tableau. Moi, je pense que je vais m'éclater ce week-end, tu vois.
Eh ben écoute, on regardera les matchs nous aussi.
J'ai 8 clubs normalement qui vont se battre pour la relégation. Et ça va être fou entre Bochum, le Brême, Schalke, Cologne, l'Union Berlin, qui est pourtant européen comme Cologne théoriquement, Augsbourg, Mayence et le Hertha Berlin. Je crois que j'ai jamais eu une telle densité européenne. Je l'avais dit l'année dernière, cette saison, si on pense à la saison 2010-2011, j'ai 17 des 18 clubs qui sont en Bundesliga qui ont été en Europe sur la même période depuis 2011-2022.
On ne parle pas assez de la lutte pour les relégations, mais je trouve que c'est passionnant. Enfin, les 4-5 dernières journées, quand tu as plusieurs clubs qui sont impliqués.
Si ça, cette année en Ligue 1, tu vas être gâté. Avec les 4 descentes, ça va être le feu.
C'est fabuleux, ouais. Quoi. Franchement. Et de voir le bonheur de clubs qui se sauvent à la dernière journée, ça vaut des victoires en Ligue des Champions. Hein. Franchement, tu vois l'émotion qu'il peut y avoir quand tu étais au bord du gouffre. Franchement, moi, j'aime bien.
Moi, j'adore les barrages aussi. Cette année en Ligue 1, il y en a.
Ah, j'adore.
Julien Laurence nous rejoint. Salut, Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah Julien.
Alors, tu
sortais d'études là parce que.
Toi, t'étais attendu parce que là, il y a des dossiers. Démarrons par le dossier Casemiro.
Ah.
Je vais schématiser le truc. Casemiro, sportivement, il a aucun intérêt à aller à Manchester, mais par contre, il ferait le plus gros contrat de sa vie à plus de 30 ans. Qu'est-ce qu'il fait ?
C'est pour ça que le départ est inexorable et aura lieu avant la fin de la semaine.
Alors. On va expliquer. Le Real n'a pas du tout envie de vendre Casemiro, qui a un contrat encore jusqu'en 2025. La clause libératoire de Casemiro est comme les intouchables à 1 milliard d'euros. Mais c'est en fait une manière de dire c'est invendable. Casemiro est un joueur extrêmement apprécié au sein du vestiaire et au sein du club, extrêmement apprécié sportivement et humainement par Carlo Ancelotti, l'entraîneur. Et il se trouve que il y avait Casemiro allait rester. Sauf que, comme l'explique si bien Gilbert, et Julien va nous confirmer les chiffres, Manchester United vient avec 60 millions, 70 millions, 80 millions. Le Real en veut 80 millions. Et surtout, Adia Casemiro, on te double ton salaire.
Mais c'est énorme. C'est-à-dire le Real ne peut pas refuser.
Non, mais c'est surtout Casemiro.
Ça tombe du ciel.
Casemiro va gagner 15 millions d'euros. C'est-à-dire qu'un contrat de 5 ans, alors qu'il a 30 ans, contrat de 5 ans, tu multiplies 5 fois 15, ça fait 70. C'est ça, hein ? Je dis pas de bêtises, hein ?
75.
75, merci. 75 millions d'euros.
Donc, t'as 15 fois 10, tu peux faire 15 fois 10.
Non, moi, c'est compliqué pour moi. Enfin, tu vois, je suis littéraire.
15 fois 6, pardon.
C'est 75 millions d'euros. En sachant qu'au Real Madrid, une fois qu'il aurait terminé son contrat, puisqu'il a plus que 30 ans, il n'aurait pu renouveler son contrat que d'année en année. Non, mais quoi qu'il arrive, c'est un coût énorme pour lui.
C'est une affaire en or pour tout le monde.
C'est une affaire. Je pense pas pour Manchester United, c'est autre chose. Oui. Mais je pense que c'est une affaire énorme pour le Real Madrid. Le Real Madrid ne veut pas le vendre. Mais considérant que Casemiro est un type qui a toujours été impeccable, notamment pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, quand le Real demande aux joueurs de baisser le salaire, il y a une petite fronde, il y en a certains qui ne seront pas d'accord. Casemiro prend la parole dans le vestiaire en disant « Écoutez les mecs, ce club a toujours été nickel avec nous. On n'a jamais eu un jour de retard dans le paiement des salaires. Il y a une situation particulière, il faut qu'on fasse un effort. » Et ça, ça a été très apprécié par Florentino Pérez. Raison pour laquelle, si Casemiro dit au Real Madrid « J'ai le contrat de ma vie, est-ce que je peux partir ?» Eh bien, il partira. Et bah alors ils vont pas laisser partir à 20 millions, mais s'il y a 70 millions sur la table,
mais Fred,
alors j'aimerais que Julien donne
ça. C'est également
version.
Une super affaire pour le Real parce que c'est un gros transfert et un gros salaire en moins, et c'est le moment aussi pour le Real de tourner une page après une période absolument glorieuse du trio magique au milieu et de lancer
Tchouaméni
définitivement deux joueurs qu'ils ont recrutés. Et qui vont avoir maintenant du temps de jeu, Tchouaméni ou Camavinga.
Mais alors, à ce poste-là spécifique, parce qu'on a vu que Camavinga avait plus de problèmes devant la défense. Camavinga est plus le remplaçant de Kroos.
Absolument.
Plus box-to-box, enfin, tu vois, avec une plus grande projection.
Ce sera pour Tchouaméni.
C'est pour Tchouaméni.
Le terrain déblayé.
Ouais, mais après, ils vont recruter quand même. Ils vont devoir recruter quelqu'un.
Pour le Real, c'est différent.
Mais c'est surtout pour Casemiro. Et sincèrement, parce que, et je vais passer la parole à l'ami Julien, le Real ne veut pas vendre. Mais le Real ne va pas retenir Casemiro parce qu'il considère que Casemiro a été... Alors, j'ai regardé combien avait coûté Casemiro. Casemiro avait coûté 6 millions d'euros.
Mais c'est une affaire
quand il signe
au Real.
Pas que
c'est une bonne affaire pour le Real.
Il l'avait prêté à Porto. Porto avait payé 1,2 million pour le prêt. Donc, ça fait 4 millions 8. C'est-à-dire que Casemiro a coûté au Real 4 800 000 euros.
En plus, le salaire, quand même.
Oui, mais je veux dire, en plus au niveau de l'achat, depuis qu'il est là, ça a été largement amorti, mais en plus il risque de faire d'avoir une vente à 70 millions. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il fait partie de cette histoire. Mais attention, on va quand même garder un petit pourcentage de non faisabilité de ce transfert pour une raison très simple, c'est que c'est un type qui est extrêmement attaché au Real Madrid et qu'il se peut qu'à la dernière minute il se dise mais non, je préfère terminer ma carrière au Real.
Julien.
Alors Marca annonce ce soir là qu'il passera sa visite médicale demain. Du côté du United, on nous dit pas ça. On nous dit en revanche qu'ils sont très optimistes sur le fait qu'ils vont réussir à boucler ce transfert là. On parlera du terrain après et je comprends pas pourquoi aujourd'hui Eric Ten Hag par exemple valide ce transfert. Pour moi c'est incompréhensible. Ten Hag, il a besoin d'un numéro 6 comme un Busquets de la grande époque, un Rodri, un Brozovic,
un joueur qui veut dire.
Non mais un joueur qui organise le jeu, qui c'est tout ce qu'il veut lui, c'est de la progression avec ballon. Casemiro, il est très fort sans ballon, c'est un des joueurs les plus intelligents pour casser les attaques adverses. Il est très bon, mais avec le ballon, c'est pas ça, c'est pas du tout ce que Ten Hag veut. Donc j'ai un peu de mal à comprendre la logique derrière. Mais bref, quand on t'offre un contrat pareil à cet âge-là, largement. Mais après peut-être que finalement le plus important c'est pas Casemiro, c'est le joueur qui va venir à côté de Casemiro, qui jouera à côté de Casemiro, que ce soit dans un double pivot ou dans un milieu à trois, peu importe, mais que ce soit un Eriksen peut-être, tu peux le tenter. Ou alors qu'ils vont aller chercher peut-être un Frankie de Jong ou un autre joueur qui, lui, sera plus capable justement à faire progresser le ballon. Parce qu'encore une fois, Casemiro, c'est pas ce joueur-là du tout. Mais c'est peut-être ça le plus important finalement. Mais après, quand on t'offre un contrat pareil, tu t'en fous, tu t'en fous qu'il pleuve tout le temps, tu t'en fous qu'il n'y ait pas la Ligue des Champions, finalement. Hein. Là, tu mets ta famille et les cinq prochaines générations de Casemiro à l'abri, quoi. C'est incroyable.
Mais bien sûr. Mais en plus, Ligue des Champions, émotion, il en a quatre, lui. Hein. Tu vois, donc ça va.
Oui, mais excuse-moi, mais un joueur comme Casemiro, il doit jouer la Ligue des Champions. Il ne peut pas aller jouer en Estonie, en Europa League.
Oui, voilà. Lui, ce qu'il attend maintenant, c'est la Coupe du Monde. Il fait partie de ces joueurs qui attendent la Coupe du Monde. Voilà, il a tellement gagné dans sa vie, Manchester, ça va être le dernier de ses soucis.
C'est ça.
Il y a la Coupe du Monde en novembre. C'est pour lui, quoi.
Mais après, au Brésil. J'insiste, vraiment, tout le monde l'annonce. Et moi, je sais qu'au Real Madrid, ils ne vont pas le retenir. Mais Casemiro est vraiment attaché au Real. Il faut vraiment mettre beaucoup
de pour lequel
Je vais terminer un truc sur Casemiro.
Encore ?
Un petit truc. Sur le truc sportif. Moi non plus, Julien, je suis pas sûr que ce soit une super recrue pour Manchester United. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir une espèce de décompression. T'as vu Varane, t'as vu le cas. Je pense que les mecs, après avoir passé toutes ces années avec l'exigence du Real, là, il y va pas pour le projet sportif, il y va pour les thunes. Et j'ai quand même l'impression, même si c'est un très grand professionnel, que son niveau va baisser, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais il est plus, tu vois, il a plus rien à prouver.
Dossier suivant. Polo.
Oui.
Est-ce que Dortmund se penche vraiment sur Cristiano Ronaldo?
Mais je vois pas pourquoi Dortmund se pencherait sur Ronaldo.
Mais c'est quoi cette rumeur?
Je pense que c'est l'agent de Cristiano Ronaldo qui se penche sur le Borussia Dortmund. Ça n'a rien à voir. Mais quand l'idée est arrivée, je dis, mais c'est peut-être pas con. Et je le dis d'autant plus que j'ai beaucoup critiqué les dernières années de Ronaldo, aussi bien à la Juve qu'en équipe du Portugal, qui a évidemment la dernière saison à Manchester United. Et tu te poses la question, à part le marketing, qu'est-ce que ça peut faire de bien au Borussia Dortmund? T'as perdu le Norvégien Hollande, tu récupères Ronaldo ok, ça fait le buzz, etc. Comme le Bayern a perdu Lewandowski, ils ont récupéré Mané. Ok, très bien. Mais dans le jeu, ça t'apporte quoi quand ton effectif est déjà opérationnel au Borussia Dortmund? Lorsque ton effectif, en plus, cherche un attaquant de plus d'un mètre 90, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Sébastien Haller. Haller, il a malheureusement ses problèmes de santé. Donc on est allé chercher Modeste, qui évidemment n'est pas du niveau de Ronaldo, mais c'est un profil pareil, attaquant plus d'un mètre 90. Tu le mets où, Ronaldo? J'ai 5 attaquants aujourd'hui au Borussia Dortmund. J'ai des jeunes, notamment Moukoko, qu'il faut lui donner du temps de jeu pour rappelons-le qu'il a 17 ans et qu'on doit faire progresser. J'ai la révélation depuis ce début de saison, le jeune Binwell Gittens, 18 ans, anglais, qui t'a mis un but extraordinaire, qui à lui tout seul peut changer le résultat d'une rencontre en 10-15 minutes, à faire progresser. Et on te dit, Ronaldo, dans l'équipe, il arrive. Ok, je comprends pas. La troisième, donc ça c'est compliqué. Et puis la troisième chose, parlons simple. Même si le Borussia Dortmund a dépensé près de 100 millions d'euros cet été pour des nouvelles recrues, dont Sébastien Haller évidemment, Nico Schlotterbeck et Karim Adeyemi, que j'ai oublié, qui joue plutôt du côté droit en ce moment. Le salaire de Ronaldo, c'est pas gratos, donc faudrait qu'il fasse des efforts énormes. Mais surtout, je vois pas où tu veux le mettre dans le projet aujourd'hui. C'est-à-dire que à la rigueur, on pourrait le mettre ailier gauche dans un ancien Ronaldo version. Il fait plus ça depuis des années, envie de le faire.
Enfin, il ne peut plus.
Oui, mais il peut plus, c'est ça. C'est fini à ce niveau-là. Ils sont tous. C'est un peu le même problème qu'on a avec Sadio Mané au Bayern Munich. Hein, savoir est-ce qu'on le met sur le côté droit ou en faux neuf, etc. Et donc voilà, j'arrive pas à comprendre le truc. Maintenant, si tu raisonnes en question business, il va amener des sponsors. Si la marque Ronaldo va rejaillir sur la boulie, sur tout ce que tu veux. Ok, mais moi, si ça me dépasse complètement. Donc je vois pas l'intérêt. Mais c'est surtout de mon point de vue. Mais l'idée est pas bête, honnêtement. Quand tu dis, j'ai gagné en Espagne, j'ai gagné en Italie, j'ai gagné en Première Ligue, pourquoi pas aller gagner en Allemagne? L'idée est pas bête. Hein, en se disant, tiens, si c'est moi qui pouvais enlever un titre au Bayern Munich, pourquoi pas? Bon, je suis pas sûr qu'avec le niveau actuel du Bayern, tu vas leur faire beaucoup bouger l'oreille, mais ça, c'est un autre débat. Mais la question, elle est là. Mais quelle est l'utilité d'un Cristiano Ronaldo à partir du moment où il n'est pas intégré au départ dans un projet sportif sur 2 ou 3 ans par exemple, et encore on a vu les résultats en ce moment, moi j'arrive pas bien à comprendre quoi.
Mais Ronaldo c'est pas un projet sportif, c'est un projet personnel de statistique.
Ben oui.
Julien, toi tu dis quoi sur cette histoire de Dortmund là?
Moi je crois pas une seule seconde. Mais vraiment, pour moi, ça colle pas du tout. Ça colle pas non plus avec la mentalité du club. Ça colle pas avec la philosophie du club non plus. Enfin, je vois pas. Après. Je vois même pas Edin Terzic aujourd'hui dire mais oui, bien sûr, c'est une idée géniale d'aller chercher Cristiano Ronaldo. Regardez tout ce qu'il va nous faire. Mais il court plus. Je sais pas si je vous ai dit la dernière fois, mais la saison dernière, j'ai regardé donc toutes les phases de pression sans ballon, donc des attaquants des cinq grands championnats. Il est dernier. Et même l'attaquant à 3, il fait plus de pressing que Cristiano Ronaldo. Même le mec à Retafe, il fait plus. Mais c'est avant d'arriver à un point. Ok, Retafe, c'est normal, c'est un mauvais exemple. Mais tu vois, c'est à un moment, c'est je sais pas, c'est plus possible. Ou alors il faut jouer dans un système avec deux pointes.
Et c'est pour ça que personne le prend.
Bien sûr.
Il n'y a qu'un club qui a besoin d'une vitrine ou qui a besoin de faire parler de lui qui pourra être intéressé. Mais un club qui veut réussir sportivement ne peut plus faire appel à lui.
La grosse connerie de Cristiano Ronaldo, c'est de devoir quitter le Real, c'est tout. Voilà.
Mais Real, il jouerait plus. Ce serait un handicap aujourd'hui.
Ouais, mais pour le Real, c'est parfait. Bah, la preuve.
Au bout d'un moment,
depuis, il est
à un moment ou un autre.
Donc, mais pour lui, aujourd'hui, pour réussir sa sortie, c'est soit
Sporting. Sporting, c'est la meilleure solution.
Ouais.
Non, mais arrêtez avec ça, parce que ce que vous dites, je comprends pourquoi vous dites ça. Mais comme on en parlait l'autre soir avec Nico Villas, c'est un petit peu. Je trouve dégradant pour le Sporting de dire ça, parce que d'abord le Sporting c'est un club qui a de l'ambition, avec un entraîneur qui est extrêmement ambitieux pour faire bien jouer son équipe et qui a lui envie de progresser, de devenir une vedette. Amorim, il a pas envie d'avoir Ronaldo comme un boulet qui sera pas dans ses consignes de jeu et dans son jeu. Non, sa sortie c'est l'Inter Miami, c'est les Galaxies, c'est un truc comme ça aujourd'hui. C'est d'admettre que il faut y aller. Mais sauf que comme il y a la Coupe du Monde là et qu'il a envie comme Messi de briller pour sa dernière. Il lui faut quand même un environnement un peu sérieux pour être bon, pour être bon à ce moment-là.
Mais moi, parce que je l'aime vraiment beaucoup, hein, c'est
on l'aime tous bien, sauf qu'un
moment. Mais pour son image, c'est qu'enfin, on en a parlé lundi, mais moi, j'arrive pas à imaginer, parce que là, aujourd'hui, Mr. Chip, qui est monsieur statistique en Espagne, Mr. Chip, Alexis, et qui est un chroniqueur important, il est pro Atlético, il est très proche du dirigeant d'Atlético.
Chip, lui, comme une chips.
Chip, tu sais, comme un chip d'ordinateur, un truc qu'on met dans ta tête là, tu sais, parfois on a un chip.
Comme Van Chip, voilà, un joueur néerlandais.
Et lui, il est proche des dirigeants de l'Atlético, et lui pense que c'est encore possible qu'il aille à l'Atlético et que l'Atlético chercherait une sortie avec Griezmann. Enfin, il faudrait que le Barça.
Comment Simeone intègre Ronaldo dans son équipe?
Oui, mais c'est pour ça, ça paraît très compliqué. Mais je comprends. Je pense qu'il y a un désir de. Le problème, c'est qu'il faut se séparer de Griezmann, qui est, je vous rappelle, prêté par le Barça, parce qu'il faut libérer du salaire.
Tout le monde en est content maintenant.
Tout ça est très compliqué. Non, mais tout ça est très compliqué. Mais t'imagines, t'es Cristiano Ronaldo, j'insiste là-dessus, tu es le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Et tu vas t'offrir à l'Atlético, qui est pour les vrais supporters. Le club ennemi numéro 1, enfin je veux dire.
Surtout qu'à chaque fois qu'il a joué contre l'Atlético, il en a fait des tonnes.
Il est.
La dernière fois, avec la Juve, quand il joue contre l'Atlético, qui met son triplé là.
Ah ouais.
Waouh, ce qu'il fait là, moi je suis sportif de l'Atlético, je n'oublie jamais ça.
C'est en club espagnol, la meilleure victime de Cristiano Ronaldo.
L'Atlético, c'était la cible hier de Ronaldo.
Mais t'imagines cet état de. Je vais même employer un mot fort, de désespoir de Ronaldo. Parce qu'il y a quelque chose de désespérant. Vous ne trouvez pas les copains ?
Il est en train de rater sa sortie, peut-être.
C'est triste, hein. Moi, je trouve ça triste.
Hein, on est d'accord. Vous trouvez que c'est désespéré ? Il est désespéré.
Oui, j'ai du mal à être triste pour Ronaldo, excusez-moi.
Ah, mais si, moi, si.
Ah, si.
Ah, si. Bah, parce que moi, je l'aime bien, vraiment. Puis, c'est un mec gentil, qui a beaucoup de choses. Il aurait beaucoup de choses dans la tête.
Un milliard, sans compte en banque.
Oui.
C'est bien.
Ouais. Mais ça ne lui suffit pas. Hein. Lui, c'est pas important pour lui. Enfin, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Mais comment un type aussi bien entouré peut faire de telles erreurs stratégiques pour son image? C'est ça qui est fou.
Johan, un truc à dire sur Cristiano? Tu peux, hein, si tu veux. Hein, même si c'est pas
la peine. Je le renvoie, si tu veux un truc pour un club, je le renvoie là.
C'est pas la peine, merci bien. Ou alors à la Salernitana, ou je sais pas, dans des clubs comme ça, où il peut faire beaucoup de bien pour un promu. Mais...
Et Ribéry alors?
Ribéry est toujours là, il va jouer. À mon avis, pas très souvent titulaire.
Parce que d'ailleurs, mais... en voilà encore un autre qui a du mal à arrêter, tiens.
C'est pas vraiment le même délire. Lui, c'est plus des questions statistiques.
Il a choisi un petit club, il est dans le plaisir de jouer.
Jouer.
Sympa, il bouffe bien, il y a du soleil, il est peinard.
Ouais, on comprend Ribéry en fait, quoi. Tu vois, puis c'est pas.
Moi, je comprends totalement aussi Franck Ribéry. Et c'est vrai que Ronaldo, je suis d'accord avec ce qu'a dit, enfin ce qu'on dit tous les copains. C'est alors triste, je sais pas, mais c'est dommage en fait d'avoir un champion qui est en train de passer à côté sur ces derniers mois. pas tant sur le terrain, mais plus en coulisses, c'est-à-dire l'attitude, son histoire, voilà, de je reviens plus tard, je reviens avec mon agent, je veux partir, j'ai pas envie de jouer, je pars à la mi-temps du match, ça va quoi. Au bout d'un moment, c'est pas le cercle non plus. Donc, je trouve qu'il est en train de vraiment okay. de ternir sa fin de carrière à ce niveau-là.
Surtout, attends, je vous coupe une pub. Et ensuite, on revient. Et puis d'ailleurs, il faudra que Julien nous explique comment Manchester s'est pris une douille par l'Ajax avec une offre à 80 millions là. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est dans quelques instants. Dans l'after, il nous reste un petit quart d'heure avec les drôles de dames.